Bonjour et bon dimanche. Vous allez bien? C'est bien. Prions le Seigneur Jésus. Merci mon Dieu. Tu es fidèle avec nous et nous te remercions parce que nous savons que tu veux notre bien et que tu nous as déjà donné tant et que nous pouvons nous attendre encore davantage afin de pouvoir donner davantage. Merci Jésus. Merci de nous aider à bien comprendre ce message et qu'il puisse bénir mes frères et sœurs et qu'ils puissent comprendre des choses qui sont restées un peu floues. Merci Seigneur. Amen.
Amen.
Alors aujourd'hui, c'est la suite des prédications, des deux prédications de dimanche, les deux derniers dimanches. Et c'est une étude, on va faire une étude ce matin sur quelles étaient les différences qu'on pouvait trouver. Quelles sont les différences qu'on peut trouver entre l'Église du temps des apôtres et celle du XXIe siècle? Il y en a un paquet. Et ça, c'est pas dans le but de juger ou de critiquer les religions, mais c'est dans le but de rétablir la vérité, puisque nous sommes au temps du rétablissement de toutes choses dont ont parlé les prophètes et dont a parlé Luc dans Actes chapitre 3, verset 21. D'accord? Donc on continue dans cette lancée. Donc, le rétablissement de toute chose, c'est aussi le rétablissement de l'Évangile, de la bonne nouvelle, le rétablissement aussi du fonctionnement de l'Église, tel qu'il était pratiqué au début. Alors, il y a des théologiens maintenant qui ont lancé l'idée, et puis les chrétiens se sont engouffrés là-dedans, qu'ils accusent Paul, ils accusent l'apôtre Paul d'avoir créé le christianisme tel qu'il est pratiqué chez les non-juifs. Alors, je ne suis pas du tout d'accord avec cette théorie. C'est une théorie qui séduit beaucoup de monde et qui font que beaucoup de chrétiens n'aiment plus l'apôtre Paul, puis le traite de misogyne en plus. Enfin, bon, ils n'aiment pas l'apôtre Paul. Et c'est surtout à cause de cette doctrine. Et c'est dommage. Alors, on va voir ce que la Bible affirme à ce sujet. On va commencer par lire 1 Thessaloniciens. Au chapitre 2, verset 4, 1 Thessaloniciens 2, 4. Voilà ce qu'il est dit. Ça parlait de ça. Non, c'est 2, 14, excusez-moi. Car vous, frères, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ dans la Judée. Dans la Judée. Donc les gens de Thessalonique, qui étaient des gens dans les nations, sont devenus les imitateurs des églises qui sont dans la Judée. Et quand nous lisons les Actes des Apôtres, on voit clairement que le siège central de l'église de Dieu dont l'apôtre Paul parle là, pendant des dizaines d'années, c'était l'église de Jérusalem qui est en Judée. À l'origine, c'est à Jérusalem que le Saint-Esprit s'est répandu et a rempli, a immergé, baptisé les véritables chrétiens. On trouve ça dans Actes chapitre 2 et Actes chapitre 4 aussi. C'est à Jérusalem que les apôtres Pierre, Jacques, Jean ont exercé la plus grande partie de leur ministère. On trouve ça, je ne vais pas vous lire ces textes, mais on trouve ça dans Actes 1, Actes 11, 2, 1, 2, Actes 8, 1, vous lirez ça après chez vous. Et c'est vers les dirigeants de l'église centrale de Jérusalem que Paul et Barnabas sont venus exposer la question majeure de la circoncision pour les gentils, c'est-à-dire pour les non-juifs. Les non-juifs, pour ceux qui ne savent pas, sont appelés les gentils. Donc, il y avait un problème avec la circoncision. Et ils sont venus à Jérusalem pour résoudre aussi d'autres questions. On va dire ça dans Actes 15, faire une lecture là. Et c'est important de savoir comment les choses sont devenues ce qu'elles sont. Actes 15, verset 1. Quelques hommes venus de Judée, à Antioche, donc dans un pays, ce n'était pas Israël, quelques hommes venus de Judée enseignaient les frères en disant « Si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. » Voilà. Il faut que vous soyez circoncis, sinon vous ne pouvez pas être sauvés. Ils enseignent bien ça. C'est judéen. Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion, et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns des leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Après avoir été accompagnés par l'Église, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie, la Samarie, racontant la conversion des païens, et ils causèrent une grande joie à tous les frères. Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église, les apôtres et les anciens, et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors quelques-uns du parti des pharisiens, qui avaient cru, donc qui étaient devenus des chrétiens, se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire, et une grande discussion s'étant engagée, Pierre se leva et leur dit, « Hommes, frères, vous savez que dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous, afin que, par ma bouche, les païens entendent la parole de l'Évangile et qu'ils croient. » Vous rappelez que c'était, Pierre était sur un toit en train de prier, il a vu une grande nappe descendre, et Dieu lui disait, « Tue et mange », c'était tous les animaux impurs, des porcs et des choses comme ça. Et Pierre a dit, « Non, c'est impur, je ne peux pas. » Et Dieu a dit, « Ne déclare pas impur ce que j'ai déclaré pur. » Et puis ensuite, Dieu l'a envoyé chez les païens, chez les gentils, chez les non-juifs, pour prêcher l'Évangile. Là, les non-juifs se sont convertis pendant la prédication de l'apôtre Pierre. Le Saint-Esprit est descendu sur eux, ils sont bien parlés en langue. Et Pierre et les autres ont dit, bon, s'ils ont reçu comme nous, il faut qu'on les baptise. Ce n'est pas des juifs, mais bon, Dieu les a choisis, donc ils sont comme nous. Alors, et Dieu, donc verset 8, et Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter ? Il dit, pourquoi est-ce que vous tentez Dieu en mettant un joug sur le cou des disciples qui ne sont pas juifs, en leur faisant porter un joug qui était tout le temps quelque chose de très difficile pour nous ? Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière qu'eux. C'est par la grâce que nous sommes sauvés, non pas par la loi. Toute l'assemblée garda le silence et on écouta Barnabas et Paul qui racontèrent tous les miracles et les prodiges que Dieu avait fait parmi eux au peuple païen. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit « Hommes, frères, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porte son nom, et avec cela s'accordent les paroles des prophètes, selon qu'il est écrit, après cela je reviendrai et je relèverai de sa chute la tombe de David, j'en réparerai les ruines, je la redresserai, afin que le reste des hommes cherchent le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur qui fait toutes choses et à qui elles sont connues de toute éternité. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas des difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de la débauche, des animaux étouffés et du sang. Car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui prêchent, depuis qu'on lit tous les jours de sabbat, ses lois dans les synagogues. Alors, il parut bon aux apôtres et aux anciens et à toute l'Église, donc de Jérusalem, de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas, Jude, appelé Barsabas, et Silas, homme considéré entre les frères. Ils les chargèrent d'une lettre ainsi conçue. Voilà la lettre. Les apôtres et les anciens et les frères, aux frères d'entre les païens, ça c'est nous, qui sont à Antioche, en Syrie, en Cilicie, ça, à tout le monde, à tous les juifs, à tous les non-juifs. Ainsi, ayant appris que quelques hommes partis de chez nous et auxquels nous n'avions donné aucun ordre, c'est clair, nous n'avons pas donné d'ordre à ces gens-là, nous avons appris que quelques hommes partis de chez nous et auxquels nous n'avions donné aucun ordre vous ont troublé par leur discours et ont ébranlé vos âmes. Nous avons jugé à propos, après nous être réunis tous ensemble, de choisir des délégués et de vous envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et Paul, ces hommes qui ont exposé leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons donc envoyé Jude et Silas qui vous annoncent de vive voix les mêmes choses, car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne pas vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire, savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de la débauche, choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde. Adieu. Voilà ce qui s'est passé là, donc à Jérusalem, et la conclusion de la chose. Donc, cette décision ne vient pas de Paul, mais des apôtres qui sont à Jérusalem. Ce n'est pas l'apôtre Paul qui a décidé. Lui, il l'a reçu par révélation, et puis les apôtres ont dit, oui, c'est vrai, c'est comme ça, c'est juste. Cela dit, on sait, en lisant ces textes, que l'église de Jérusalem, que présidaient Jacques, Pierre et Jean, unissait la loi de Moïse avec la doctrine de Jésus. Et c'était, d'après ce que Paul dit aux Thessaloniciens, l'église de Jérusalem, le modèle à suivre. C'était des saints. Et ils unissaient la loi de Moïse avec la doctrine de Jésus. Et les églises éloignées de Jérusalem avaient donc recours à l'autorité de Jérusalem, non pas de Rome, hein, mais de Jérusalem. Alors, la Bible nous parle que d'une seule conférence générale, ministérielle, majeure, c'est celle de Jérusalem. On ne parle pas des autres conciles, mais celle de Jérusalem. Et c'est là que se trouvaient les apôtres. C'était l'église mère, et comme je le répète, l'église mère n'était pas Rome. Et donc, c'est à Jérusalem que Paul et Barnabas sont venus 14 ans. Il faut se rappeler que c'était 14 ans après la conversion de Paul. Paul n'avait jamais été consulté des apôtres. Il recevait ce qu'il recevait directement de Jésus et de par l'écriture de l'Ancien Testament. Et il est venu les voir, il le dit lui-même, de peur d'avoir couru en vain, parce que il a entendu les Judéens qui disaient ça, qui disaient oui, il faut être circoncis, sinon vous ne serez pas sauvés. Il s'est dit, mais est-ce que j'ai fait une boulette, est-ce que je me suis trompé? Il a dit de peur que je ne sois que je n'ai couru en vain. On trouve ça dans Galates au chapitre 2 et au verset 1 et 2. Il dit, 14 ans après donc sa conversion, je montais de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant pris Tite avec moi, et ce fut après une révélation que j'y montais, et je leur exposais l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposais en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Vous voyez, l'apôtre Paul, du coup, s'est dit, mince, qu'est-ce que je suis bourré. Donc, il a voulu être au clair avec les apôtres et leur exposer clairement sa vision. Et les apôtres ont accepté sa vision et ont dit, c'est juste, c'est bon, c'est bien. Que firent Paul et Barnabas après cette conférence majeure à Jérusalem? Eh bien, la Bible nous dit qu'ils ont voyagé partout en Asie mineure pour visiter les églises, et ils leur ont recommandé d'observer les décisions prises par les apôtres et les anciens de Jérusalem. On peut trouver ça dans Actes chapitre 16, verset 4. Vous voyez pourquoi les théologiens nous balancent des trucs? On dirait qu'ils n'étudient pas la Bible, c'est quand même curieux. Apocalypse 16, 4. Il est dit, et passant par les villes, il recommandait aux frères d'observer les décisions des apôtres et des anciens de Jérusalem. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Voilà. Donc, l'apôtre Paul n'était pas en bisbille avec les apôtres de Jérusalem, ils étaient en plein accord. Donc, Paul respectait l'autorité de Jérusalem. Et qu'est-ce que nous devrions faire au 21e siècle ? Je vais vous le dire. Ne devrions-nous pas respecter l'autorité de l'église de Jérusalem des premiers temps? Le respect que Paul avait pour l'autorité des apôtres à Jérusalem devrait être le même respect que chaque chrétien du XXIe siècle devrait avoir les idées protestantes à ce sujet sont hérétiques, qui prétendent que Paul aurait été utilisé par Dieu pour réinventer le christianisme. Ils disent ça par mépris au sujet des Juifs. Alors, nous sommes déjà bien avancés, nous ici, dans la communauté, au sujet du rétablissement de toutes choses, de ce que l'Église de Jérusalem était. Nous approchons de plus en plus de cette image, puisque, comme l'Église de Jérusalem, nous vivons en communauté, nous avons mis tous nos biens en commun, distribuons à chacun selon ce qu'il a besoin, il n'y a parmi nous aucun pauvre, et on mange tous les jours ensemble, on vit en communauté, on est une communauté. Nous pratiquons le lavage des pieds aussi, tel que Jésus a dit de le faire, nous pratiquons le baptême à la place des morts, nous prenons la Sainte Cène tous les soirs à table, etc., etc. Nous la prenons sous les deux formes, le pain et le vin, pas une hostie, hein. Enfin, c'est autre chose. Maintenant, on va lire en Corinthiens 7, 19. J'espère que vous aimez cette étude. J'ai eu beaucoup de plaisir à la préparer parce que c'est, je trouve très intéressant de savoir toutes ces choses en Corinthiens. Alors, j'espère que je l'ai là. 7, 19. Paul dit : la circoncision n'est rien. Et la circoncision n'est rien. Mais l'observation des commandements de Dieu est tout. Quoi ? Quoi ? Qu'est-ce que Paul dit ? Il dit que l'observation des commandements de la loi de Dieu, c'est-à-dire de la loi de Moïse, c'est tout. Paul n'a jamais oublié où le christianisme est né. Pour lui, les chrétiens de Jérusalem étaient des saints. Ils savaient que Dieu avait établi, premièrement, les apôtres. On trouve ça dans 1 Corinthiens 12, 28. Plus tard encore, Paul se rend à Jérusalem et on va lire ce qui s'y passe dans Actes 21. Actes 21, ça doit être là, verset 17. Acte 21, verset 17. Alors, lorsque nous arrivâmes à Jérusalem, les frères nous reçurent avec joie. Le lendemain, Paul se rendit chez nous avec... le lendemain, Paul se rendit avec nous chez Jacques, et tous les anciens s'y rendirent, parce que Jacques était certainement le boss. Ça veut être le président, celui qui était responsable dans l'église. Après les avoir salués, il raconta en détail ce que Dieu avait fait au milieu des païens par son ministère. Quand ils l'eurent entendu, ils glorifièrent Dieu, puis ils dirent « Tu vois, frère, combien de milliers de Juifs ont cru et tous sont zélés pour la loi. Quoi ?» Or, ils ont appris que tu enseignes à tous les Juifs qui sont parmi les païens à renoncer à Moïse, en leur disant de ne pas circoncire les enfants et de ne pas se conformer à nos coutumes. Donc, avant, il y avait le problème. Tu dis aux païens de ne pas se faire circoncire, puis maintenant, il y a un autre problème, une autre rumeur. Tu dis aux juifs qui se convertissent à Jésus de ne pas se faire circoncire. Alors, que faire donc ? Il pose la question, mais qu'est-ce qu'on va faire ? Alors, il dit, sans aucun doute, la multitude... Que faire donc ? Sans aucun doute, la multitude se rassemblera, car on saura que tu es venu. Tout le monde va savoir que tu es venu, donc les gens vont venir, il va falloir répondre à ça. C'est ça que ça veut dire. C'est pourquoi fais ce que nous allons te dire. Il y a parmi nous quatre hommes qui ont fait un vœu. Alors, c'est un vœu qu'on peut trouver dans le livre des Nombres, chapitre 6, verset 1, c'est le vœu de Naziréen, enfin bon, certainement c'était ça. Donc il y a parmi nous quatre hommes qui ont fait un vœu. Prends-les avec toi, purifie-toi avec eux et pourvois à leurs dépenses afin qu'ils se rasent la tête et ainsi tous sauront que ce qu'ils ont entendu dire sur ton compte est faux, mais que toi aussi, tu te conduis en observateur de la loi. À l'égard des païens qui ont cru, nous avons décidé, et nous leur avons écrit, qu'ils doivent s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés, de la débauche. Alors Paul prit ces hommes, se purifia, entra le lendemain dans le temple, avec eux, donc dans le temple à Jérusalem, c'était pas un temple chrétien, c'était le temple juif, hein, et entra donc le lendemain dans le temple avec eux pour annoncer quel jour la purification serait accomplie et l'offrande présentée pour chacun d'eux. Donc, Paul a eu un entretien personnel avec Jacques, et il y avait d'autres anciens qui étaient là, et vous avez noté au verset 20, tu vois combien de milliers de juifs ont cru et sont tous zélés pour la loi. Et les chrétiens juifs, donc, étaient zélés pour la loi. Or, il y avait une rumeur qui courait à Jérusalem, je le redis pour que ça rentre bien, c'était que Paul enseignait des choses contraires à la loi divine aux juifs, pas seulement aux païens, mais aussi aux juifs. Mais mes frères et sœurs, si Paul avait enseigné quelque chose de contraire à la loi, c'est-à-dire aux 10 commandements, il n'aurait pas participé à cette cérémonie de la loi que Jacques lui proposait de faire dans le temple. Bon, cette cérémonie, ce n'était pas une obligation pour les chrétiens, mais ce n'était pas non plus un péché que de s'y conformer. Et Paul, dans son amour pour l'Église mère, et pour ne pas choquer, et pour être un exemple d'obéissance à la loi, décide de participer à cette cérémonie, et c'est ce qu'il a fait. Et Dieu a voulu que cela soit consigné dans la Bible. Pourquoi ? Cela pour nous montrer que Paul était motivé par l'obéissance à la loi. Et il ne voulait pas s'y soustraire. Alors bon, on va aller plus loin. Jésus. On sait que Jésus, pour pouvoir être le sacrifice expiatoire parfait, a dû observer la loi de Dieu d'une façon parfaite. Il était sans péché, nous dit la Bible. Il n'avait jamais transgressé la loi de Moïse, sinon il aurait péché, puisque c'est la transgression de la loi qui fait qu'on est pécheur. Il observait donc la loi de Moïse. Et quelle loi pensez-vous que ses disciples observaient ? Ben, celle de Moïse aussi. Écoutez ce que Jésus dit à ce sujet. On trouve ça dans Matthieu chapitre 5, verset 17. 5, 17. Ne croyez pas, c'est Jésus qui dit, ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota et un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, ne sera pas perdu, non. Mais sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé le plus grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Ouais, Jésus, c'est clair, hein ? La grande majorité des chrétiens ne mesurent pas l'importance de ces paroles. Pas un seul iota, un trait de lettre, pas rien, ne doit disparaître avant que la terre disparaisse. Est-ce que la terre a disparu ? Non. Le ciel a-t-il disparu ? Non. Donc la loi demeure. Et Jésus est sévère contre ceux qui supprimeraient ou qui enseigneraient de supprimer un de ses plus petits commandements. Et ceux qui les observent seront appelés les plus grands dans le royaume des cieux. Alors, Jésus accomplit la loi, cela signifie-t-il que nous n'avons pas à l'accomplir ? Oh ben il l'a accompli, maintenant c'est plus notre affaire, on n'a pas à l'accomplir. Beaucoup de chrétiens pensent ça. C'est faux, ce qu'ils disent est faux. Si on n'a plus besoin d'observer la loi, et qu'il suffit de croire au Seigneur Jésus et hop, on est sauvé. Mais alors c'est formidable. On peut voler, on peut tuer, on peut commettre l'adultère, et pourquoi pas, comme ces gros cochons, la pédophilie pendant qu'on y est. Puisqu'on est sauvé par la foi, on peut faire toutes les cochonneries, tous les péchés qu'on veut. La loi ne tient plus, elle est abolie. C'est idiot. Si on s'en fout, on est sauvé, on s'en fout de tout. Pourquoi est-ce que je vais m'embêter à être honnête si on est sauvé par la foi uniquement et que la loi ne tient plus. Jésus lui-même dit, je suis venu pour, attention, amplifier la loi. Par contre, ce que Jésus est venu supprimer, ce sont les abus d'interprétation de la loi et les traditions humaines qui avaient perverti la loi. Parce que déjà, du temps de Jésus, cette loi était pervertie, maintenant encore plus pervertie. Il dit, vous avez entendu que la loi dit ceci et cela, mais moi je vous dis, et il amplifie. Il dit, si un homme va avec une femme qui ne sont pas mariés, c'est adultère. Il dit, moi il suffit que vous regardiez une femme pour avoir commis l'adultère avec elle, dans votre cœur. Il l'amplifie. Il a annulé, par contre, la loi, les lois sacrificielles, c'est-à-dire toutes les lois concernant les sacrifices, puisqu'il s'est donné lui-même un sacrifice parfait. Il n'y a plus besoin des sacrifices. Donc toutes les lois des sacrifices n'ont plus lieu d'être. Jésus est venu accomplir, c'est-à-dire vivre la loi, sans les stupidités légalistes humaines, et il est venu pour étendre la loi, pour l'amplifier, et Jésus lui-même a vécu en se conformant à cette loi, et ses disciples aussi, et Félicie aussi. D'un côté, il rendait la loi plus humaine. Si ton bœuf est tombé dans un puits le jour du Shabbat, tu vas attendre le lendemain pour aller le chercher, espèce d'andouille? Non. Il la rendait plus humaine. Si tu vois un homme qui est malade et que tu ne le guéris pas parce que c'est le jour du sabbat, vous voyez, il est en train de rendre la loi plus humaine. Le Shabbat est fait pour l'homme et non l'homme pour le Shabbat. Il le dit clairement dans Marc, chapitre 2, verset 27. Et d'un autre côté, il la rendait plus sévère. Un regard de convoitise, c'est déjà l'adultère. À Marc 5, 28. Est-ce que vous comprenez bien? C'est pas un retour à la loi pour être sauvé, c'est une restauration de la loi morale dans l'Église. Et elle en a cruellement besoin de cette loi morale. Et on y reviendra dimanche prochain. Je vous parlerai de tout ça encore dimanche prochain et peut-être encore l'autre, si Dieu le veut. Mais pour le moment, vous avez déjà de quoi réfléchir. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde d'être dans la paix. Au nom de Jésus. Amen.
Amen.
Jésus, merci pour cette parole et merci Seigneur de nous donner la sagesse pour bien la comprendre et être des gens équilibrés. Amen, Jésus. Amen. Au revoir. Amen.